Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
On y est là, vous êtes là, 32-16, c'est parti pour les GG, pour les grandes gueules, en direct jusqu'à midi. Bonjour Olivier.
Enfin, on y est, mais on n'y est pas tous. Pardon.
Alors voilà, parce que Thomas Porcher, professeur d'économie, est des nôtres. Bonjour Thomas.
Bonjour,
et à l'heure, notre avocate Sarah Salman est là aussi.
Ponctuel, merci G7.
Et puis, il nous manque notre ancien policier du RAID.
Bah oui, je comprends pas pourquoi
il fait
pas jouer Girofard, parce qu'il est bloqué sur le périph, l'ami Bruno Pomard. On nous dit qu'il sera là dans un quart d'heure, un peu moins d'un quart d'heure. Vas-y Bruno, t'as
mais
pas un Giro dans la voiture?
Bah oui.
En fait, il s'est fait prendre dans un accident sur le périphérique, assez loin d'ici.
Il est pas dans l'accident. Hein.
Non, il s'est fait prendre dans un accident, bloqué dans l'embouteillage créé par l'accident. Il a du mal à s'en sortir. On souhaite bien du courage à Bruno Pomard.
De sortir un
bête. Il dit 9h20, on peut prendre un pari qu'il ne sera pas là à 9h20.
Est-ce qu'on peut faire un pari sur son heure d'arrivée?
Non, ouais. Surtout Bruno, c'est quelqu'un, dès qu'il y a un problème, il veut être un peu...
Oui, c'est
le mec qui va régler le problème.
C'est un peu le cowboy.
Il est sorti du véhicule.
Voilà, il est debout sur le toit en fait, de la bagnole.
Il est en train de faire la circulation.
Vous allez voir, vous allez voir.
Il va vouloir taser tout le monde.
Moi, je parie sur une arrivée à 9h27.
9h27 pour Sarah Salman.
Non, moi, je pense qu'il sera là à 9h15 parce que Bruno, il a...
Des horaires.
Oui, il a le sens des horaires, il peut rouler à contresens, il peut tout faire, Bruno.
Il faut garer la voiture.
Oui.
Moi, je dis un petit 9h23, moi.
Ah, mais il va venir.
9h15, c'est un pro.
Non, vous pouvez pas dire la même chose tous les deux.
C'est un pro, on le connaît.
Mais oui, c'est un professionnel, voilà. Il sera là.
On va voir, tiens, une petite chose, là, pendant qu'on vous tient.
On parlait des professionnels.
Comme disait l'autre, puisqu'on parle des professionnels, de gens rigoureux. Les grands sujets de discussion, tu sais, quand on se retrouve en famille ou entre amis en ce moment, c'est t'as pas une série à me conseiller, quelque chose à regarder sur Netflix. Nous, on en a une de série à vous conseiller. C'est la série En, avec Zadie. En place.
Ou c'est vous qui lancez quand même
Mais
le
bien
président.
Sûr, extrait, voilà. S'il vous plaît.
Voilà.
Attends. Je ne connais pas un gars ici qui n'est pas prêt à se relever les manches, comme tu dis. Il n'y en a pas un. Et ça sert à quoi de se relever les manches s'il faut baisser son propre.
Stéphane Bell est animateur dans une MJC de quartier. On peut dire qu'il ne s'est pas privé de renvoyer Éric Andry dans les cornes.
Oui, c'est un peu le cauchemar de tous les candidats dans une campagne. L'anonyme qui débarque comme ça et qui dynamite une visite.
Non, bah surtout que l'anonyme, ça y est, il ne l'est plus. La machine médiatique s'est mise en marche. On peut parler de Blémania. Il est en tendance sur Twitter. Il a des bonnes punchlines. Du coup, on s'est amusé à demander à un institut de sondage de le tester dans la perspective de la présidentielle, si jamais il se présentait. Et d'après toi, il est à combien?
Je ne sais pas, 1%?
Non, 4%.
4% pour une séquence de 2 minutes à la télé?
Oui, et si on le rapporte au corps électoral, eh ben, ça fait quand même 2 millions de personnes.
Enfin, 2 millions?
Voilà, premier épisode d'En Place, série qu'on vous conseille avec Jean-Pascal Zadie et Éric Junior. Très drôle.
Oui, moi j'ai eu des remarques sur mon jeu, il paraît que je joue très très mal.
Et voilà.
Donc, je n'aurais pas le César ni le Golden Globe.
Ou la Cléopâtre.
Non, là tu joues vraiment bien ton rôle, là, franchement. Là,
ah ouais. Merci Thomas.
On nous reconnaît.
Ouais, on vous reconnaît.
Ça tombe bien, on voit.
Là où on voit que c'est vraiment une fiction, c'est que vous êtes tous les deux sur le plateau des Grandes Gueules. Moi je vous ai jamais vu tous les deux. Il y a toujours quand même.
Oui, il y a toujours les GG.
Ah oui, c'est vrai.
Parce qu'en fait, vous étiez trop cher pour la production de la série.
Moi, je serais venu gratuitement.
Donc, ça ne nous a rien coûté, mais vous êtes trop cher pour ce film.
Mais bon, ce qui est important à noter, c'est que c'est vous qui lancez la campagne de
oui, Monsieur Blé, de Stéphane Blé.
Il y a une sacrée distribution, il faut le dire.
Alors, il y a Jean-Pascal Zadie, il y a Éric Judor, Benoît Poulvord, il y a Marina Foïs, entre autres. Ouais. Et franchement, je crois que c'est 6 épisodes. Moi, je l'ai regardé.
C'est très drôle.
Très drôle.
Excellent.
Tu l'as vu?
Ah bah oui, sur Netflix.
Alors, j'ai pas d'abonnement Netflix.
Non, mais tu prends les codes de Thomas.
Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Que quelqu'un peut me filer ses codes.
C'est magnifique. Très, très marrant.
Thomas, est-ce que tu peux répondre à ma question?
On verra la pause.
Et c'est très lié à l'actualité du moment, bien sûr. Et vous passerez. C'est une bonne paire de rigolades où tout le monde politique en prend plein la figure. Mais la banlieue aussi, c'est de l'autodérision. Personne n'est épargné. On vous la conseille. C'est vraiment une série GG, une série grande gueule. Bon, les retraites, si on en parlait, la perspective du blocage du pays, ça peut peut-être avancer comme scénario.
RMC, les grandes gueules.
Ça va péter! Ça va péter! Ça va
petite précision, nous n'avons pas été payés là à propos de
ah
Netflix.
Bon
voilà, c'est participation. Non,
mais c'est sympa.
Bah oui,
c'est
parce sympa. Qu'en plus, ça fait parler de l'émission. La réforme des retraites, 7-11 février prochain, ce sont les deux dates de manifestation. Mais l'idée syndicale d'un blocage, elle fait débat au sein même des syndicats.
Oui, parce que les deux prochaines journées mobilisation sont fixées au mardi 7, donc dans quelques jours, et le samedi 11. Le samedi 11 février, c'est une journée de chassé-croisée. Il y a deux zones de vacances qui vont se croiser. Et donc, on a d'un côté la CGT cheminots qui voudrait faire grève dans le transport, mais on a l'UNSA ferroviaire, qui est le deuxième d'ailleurs syndicat de la CGT, qui dit attention, parce qu'on risque de rendre le mouvement impopulaire si on prive les vacanciers, les Français, de train ce jour-là. Et on voit bien quand même que peut-être que l'unité syndicale va se fissurer au moment où il va falloir, oui ou non, durcir le mouvement, aller vers des grèves reconductibles dans les transports. Là, c'est forcément quand c'est dans les transports, ça perturbe beaucoup de gens. 60% des Français, pourtant interrogés par l'Institut Elab, disent qu'ils pourraient soutenir des blocages pour faire plier le gouvernement. Alors, il dit cela alors que c'est pour le moment pas le cas, donc c'est peut-être ça changera. Mais bon, en même temps, est-ce que c'est pas la question maintenant ? Est-ce que les grévistes doivent bloquer le pays pour faire plier Macron ?
32-16 pour en parler avec les GG, Thomas ?
Oui. Moi, je pense qu'ils doivent bloquer. Alors, attention. Je dis pas ce jour-là spécifiquement parlant, parce que là c'est un jour de départ en vacances. C'est pas forcément un jour qui bloque plus l'économie que d'autres jours. Mais il est vrai que pour que le gouvernement lâche, et ça a été le cas en 95, il faut qu'à un moment il y ait un impact tellement fort sur l'économie que même le patronat, qui n'a pas été toujours pour cette réforme de retraite, qui a voulu la reporter après le Covid, parce qu'il s'est dit c'est pas le moment, il faut que les affaires reprennent. Et c'est vrai que plus vous tenez le rapport de force, plus à un moment le patronat dit écoutez Macron, il faut lâcher, le prix à payer est beaucoup trop fort. Donc la question du blocage, c'est oui. Après, est-ce que la question de ce jour spécifique, qui est un jour de départ en vacances, où vous avez des gens qui ont prévu leurs vacances longtemps en avance, et où finalement c'est plus le particulier que, on va dire, le patronat ou l'économie qui est bloqué, je pense que c'est un vrai débat et les syndicats ont raison de prendre ça avec des pincettes, parce que comme il y a un tel soutien de la population envers le mouvement, qu'il ne faudrait pas perdre ce soutien.
Moi, je me trompe peut-être, mais je pense que le blocage va s'essouffler parce que là, tout le monde ne peut pas faire grève. Même les grévistes disent que ça nous coûte de l'argent. Oui. Donc déjà, ça me paraît compliqué. Là où je rejoins Thomas, c'est que ça va pénaliser le particulier. Et je trouve que c'est un acharnement inutile. La réforme, elle va passer, tout le monde le sait.
Ah bon ?
Moi, je pense qu'elle va passer. Dans tous les cas, il la passe en force.
Donc, en fait, les grévistes devraient arrêter, alors.
Moi, je pense que oui, parce que même pour moi, dès qu'il y a grève, je suis obligée de me cloîtrer chez moi, de faire tout à pied. Enfin, c'est impossible de trouver un taxi. Alors oui, ça fait un peu égocentré de dire ça. Je l'admets, mais ça pénalise tout le monde. Au bout d'un moment, ça va pénaliser les mauvaises personnes, les travailleurs. Et là, le jour de départ en vacances, c'est pas le gouvernement qui va être pénalisé.
Non, mais tu dis de façon, de toute manière, le gouvernement aura le dernier mot. Donc
évidemment, je pense qu'il va falloir finir par se résigner. La force syndicale est nettement affaiblie quand on regarde les syndicats.
Là, c'est pas là
tout de suite
ça.
À l'instant T.
Oui.
Mais par rapport à il y a 20 ans.
Là, quand même quand on compare avec 95, on est dans
la fonction publique, il me semble qu'ils sont 20%.
Alors, il y avait plus de monde dans la rue, ouais. Voilà. Mais il y avait un petit peu. Le taux de grévistes était légèrement.
La seule différence, c'est. Pardon de t'avoir coupé.
Vas-y.
C'est juste qu'on voit des gens qui n'étaient pas dans la rue, qui ne sont pas dans la rue habituellement, rejoindre le mouvement. Ça, c'est vrai que c'est une différence notable. Non, mais on peut quand même le souligner.
Y compris dans les petites villes.
Oui, partout. Mais là où je trouve qu'il y a une distinction, c'est que je pense que ça va s'essouffler parce qu'on fait grève une fois. On peut le faire une fois. Je l'avais vu pour le mouvement des avocats. Le premier jour, tout le monde est en bloc. Et au bout d'un moment, on voit l'argent qu'on perd, on se dit. Oui. Ah oui, bah ça va être compliqué.
Mais il faut quand même reconnaître ce qui s'est passé mardi. Il y a eu effectivement plus de monde dans la rue, mais moins de grévistes à la SNCF et moins de grévistes dans l'éducation nationale. Ça veut dire quand même que les gens, avec l'inflation, la vie chère, quand tu es prof avec des salaires qui ne sont pas comme Bolland ni cheminots, bah, tu hésites à faire grève plusieurs jours de suite. Donc tu hésites déjà à faire grève une deuxième fois. Toi, tu dis qu'il faudrait une grève reconductible, en fait, parce que pour bloquer, il faut que la grève ait lieu tous les jours. Moi, je ne suis pas sûr que les profs, les cheminots, soit dans l'état d'esprit de partir sur un mouvement où du lundi au vendredi non, tu fais grève.
C'est ingérable.
Là, je te rejoins.
95, c'était ça. Hein.
Non, oui, là, 95, c'était un mois de blocage total.
Voilà, il n'y avait pas de train tous les jours.
Tous les jours, pendant un mois. Pendant un mois,
on marchait. Et la pauvre Sarah, qui n'était pas née à l'époque.
Si, j'étais née, j'étais toute petite au maternelle, mais j'étais née.
Pas de taxi non plus, parce que tu pouvais. En fait, tout était bloqué.
Juste, alors, pour me rappeler un peu, s'il n'y a pas de transport pendant. Non, mais juste expliquez-moi, moi, j'étais toute petite, j'étais en maternelle. Il n'y a rien pendant un mois.
Oui.
Pas de télétravail, donc, forcément.
Il n'y avait pas Internet.
Il n'y
avait pas de téléphone portable.
Mais surtout, okay. tu pouvais pas rouler parce que tu étais bloqué.
Mais comment on travaillait concrètement ? C'est ça ma vraie question.
Tu travaillais pas, et c'est pour ça que justement
Juppé
a lâché. Parce que même le patronat a dit faut arrêter. Au début,
Parce que le patronat perdait beaucoup d'argent.
En fait, les premiers qui ont perdu énormément d'argent, c'est les PME, les artisans là qui se sont fait laminer En décembre, hein,
ouais,
avant Noël.
En décembre, c'était juste
et
avant les fêtes.
Quand même, et à un moment, ça tapait tellement l'économie que là, alors, le grand patronat, le MEDEF, a
la grande différence, parce qu'on fait souvent la comparaison avec Juppé, c'est que c'était pas dans le programme d'Alain Juppé et de Jacques Chirac, puisque au contraire, Chirac s'était fait élire sur la fracture sociale, plutôt un programme social d'ailleurs concocté par Philippe Séguin. Il nomme Juppé le rigoriste des finances, et à Mitignon qui dit, non, alors là, on va supprimer les agents spéciaux, on va réformer la sécu, etc.
Mais là, on le fait à l'envers.
Les Français avaient l'impression de la faire à l'envers. Là, on peut pas dire que
c'était dans son programme.
Macron ne surprend pas là.
Ce qui est intéressant, c'est il suffit de regarder aussi la dernière étude et là pour BFM TV, c'est que 70% des Français sont toujours contre cette réforme.
Ça bouge pas.
À plus de 60%, ils comprendraient qu'il y ait un blocage du pays, mais tu as en même temps 60-70% des Français qui sont convaincus
qu'il va la passer,
que la réforme passera. Ça, hein.
Qui sont résignés.
Il y a à la fois une espèce de colère qui est toujours là et en même temps de résignation en disant est-ce que si on se
parce
bat
que les fois dernières c'est passé à chaque fois
à quoi ça va servir quoi si tu veux c'est ça le problème
le dialogue me
donc c'est pas
peu.
Sûr que les prochaines mobilisations continuent d'entraîner du monde
mais là il y a quand même il y a aussi des effets d'entraînement c'est-à-dire que là
regardez
il y a eu la première on s'est dit bon c'est coup d'essai. Puis après, il y a eu celle de la France insoumise. On s'est dit, ça va être un échec total. Ça n'a pas été tant un échec que ça. Bon, puis ça, après, il y a celle qui est arrivée quand même la deux semaines après. Et il y avait encore plus de monde. Et là, les sondages montrent, et on a discuté ici, que chaque semaine qui passe, il y a de plus en plus de Français qui sont contre cette réforme. Donc il y a quand même un effet d'entraînement plutôt que l'inverse. Mais après, là où il y a une différence avec les anciennes lois, quand vous faites une réforme du marché du travail, vous pouvez expliquer, c'est technique, que ça va créer plus de flexibilité et donc plus de dynamisme et plus d'emplois. Super. Quand vous faites la réforme de l'assurance chômage, ça concerne 5 millions de personnes. Là, la réforme des retraites, ça concerne tout le monde. Et tous les gens qui travaillent peuvent se projeter. Il y a ceux qui étaient à la retraite dans 5-6 ans, ils se disent on va me rajouter 1 an et demi, 2 ans en fonction de mon âge de naissance. Je veux plus, j'en peux plus. Puis il y a ceux qui ont 45 ans qui se disent putain, faire la même chose dans 20 ans encore. C'est plus possible.
Il y aura d'autres réformes. Hein.
Voilà, et oui, mais donc tout le monde se projette et tout le monde se dit bon.
Oui, le coût de l'inflation, j'écoutais, je sais plus, je crois que c'est BFM TV, ça leur coûtait 80 euros par jour de faire grève. Donc en fait, techniquement, dans la durée, ce n'est pas possible.
Et Bruno Poncet, notre cheminot, nous a dit que ça lui coûtait plus de 100, 120 euros par jour.
C'est le pari du gouvernement.
Oui, à l'époque,
la différence qu'il y a aussi avec 95, c'est qu'à l'époque, Alain Juppé avait mis une jauge. Tu te souviens?
Il avait fait l'erreur.
Voilà. Il ne faut jamais donner de jauge. Il avait dit à 2 millions.
J'arrête.
Mais tandis qu'Elisabeth Borne ou les autres n'ont rien dit. On dit, et au contraire, ils ont mis en place des procédures accélérées pour dire on va aller au bout. Donc finalement, si tu es dans le bras de fer, tu pars avec un petit handicap.
Après, je pense que la pression, elle n'est plus sur le gouvernement qui ne changera pas d'avis, elle est sur les députés. Là, on voit que ça vacille un peu. Là, on a beaucoup parlé des députés de droite qui hésiteraient. Bon, après, d'ailleurs, c'est un peu incohérent parce qu'ils ont toujours été pour cette réforme à 64 ou 65 ans. Enfin, bon, ça, c'est leur problème, c'est leur conscience. Mais moi, je pense qu'il y a des députés de gauche qui ont rejoint Macron, qu'on n'entend pas beaucoup, mais les Sacha Houlier, par exemple. D'ailleurs, ils se taisent. Hein.
Ils sont minoritaires.
Ces gens-là qui sont venus du Parti Socialiste, ils assument vraiment cette réforme paramétrique. Quand ils étaient dans l'opposition à Sarkozy, ils étaient vent debout. Alors j'aimerais bien savoir, est-ce qu'ils sont quand même en conscience, fiers de ce qu'ils font là?
Alors il y en a quand même beaucoup qui retournent leur veste facilement.
Merci Thomas de leur
Marocain. Olivier Véran
aussi.
Véran.
Véran, député socialiste, était contre les 65 ans.
Bien sûr, il était contre tout. Il fallait. Et puis maintenant.
Oui, mais ça, c'est parce qu'il y a un Marocain à la clé. Je pense aux députés. Je pense à Sacha Houlier parce qu'il veut être l'aile gauche, par exemple, qui est toujours à dire oui, mais il faut plus de social.
Intervenu deux, trois fois, il défendait quand même la réforme des retraites. Défendu. Mais bon, après, c'est vrai que.
Pourquoi les convictions, ça change.
Il suffit qu'une trentaine de mecs, ne votent pas, et c'est fini. Donc, tu peux en trouver un petit peu chez les LR, un petit peu chez Édouard Philippe. Parce qu'il faut un peu casser Macron, affaiblir Macron. Voilà. Et donc, et c'est fini, ça passe plus.
Allez, on va faire un petit détour par le 32-16.
Un petit point, Bruno Pomard n'est toujours pas là.
Bruno Pomard,
16, moi je l'ai perdu.
Je suis assez déçu, moi, pour un ancien du RAID.
Ouais, moi aussi. Ouais.
On avait dit quelle heure, nous, tous les deux?
23-27.
Il n'est pas vraiment RAID.
Nous sommes avec Serge, du côté de la Charente-Maritime. Bonjour Serge.
Oui, bonjour les chevaliers.
Bonjour Serge.
Vous nous appelez d'où en Charente-Maritime, Serge?
L'île de Ré.
L'île de Ré. Alors, mon cher ami, de l'île de Ré, vous dites quoi? Est-ce qu'il faut que le pays soit bloqué? Il faut durcir le mouvement pour faire plier le chef de l'État? Dites-nous.
Alors, moi, je crois qu'il faut absolument pas bloquer le pays, parce que, enfin, c'est quand même invraisemblable. On a quand même des preuves que bloquer le pays et foutre le bazar, ça marche pas. Les Gilets jaunes ont fait 40 week-ends de manifestations. Monsieur Macron a été réélu. Et on pénalise uniquement les gens qui bossent et les gens qui, tous les jours, font le maximum pour essayer de trouver des solutions à nourrir leur famille. Et il y a une question que vous n'avez jamais posée.
Dites-moi.
Dans les manifestants, combien votent au présidentiel et aux législatives?
C'est une bonne question.
Il a entièrement raison.
Bonne question.
Et
une bonne question.
Vous avez l'occasion de faire un magnifique sondage sur place et je vous promets que 70% des manifestants ne votent pas. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont contre leur démocratie. C'est des gens qui considèrent qu'il n'y a que la rue qui a raison. Je suis désolé, le président de la République, on est dans un pays extrêmement... On est le plus beau pays au monde. On a toutes les libertés possibles et imaginables d'expression, de s'exprimer par le vote. Les gens ne votent pas. Ils ne font aucune démarche. Mais c'est rien de prendre une heure pour aller voter. Là, ils prennent 2 jours, ils perdent deux jours de salaire, ils prennent des bus, ils vont... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Attendez,
la question, qui vote dans
non,
les
non,
il
n'a
pas tout à fait tort. Mais il y a deux choses quand même que je dois relever. Quand vous dites les Gilets jaunes, ça n'a abouti... Effectivement, il y a eu la réélection de Macron, mais rappelons-nous quand même que la seule fois où le président de la République a reculé et il a lâché 10 milliards... c'est au moment des Gilets jaunes.
Et il a retiré la taxe carbone.
Donc c'est la seule fois où il a reculé. Donc la rue a eu un effet direct sur la politique économique. Et après, sur l'élection présidentielle, il s'est fait élire Macron. Mais il s'est fait élire dans des conditions.
Contre Madame Le Pen aussi.
Ah oui, parce que c'est le jeu, en fait.
Et puis il y avait la guerre en Ukraine.
Ça n'a pas été projet contre projet. Ça n'a pas été. C'est vrai qu'il a parlé de la retraite, il faut le dire. Mais.
Oui, mais tu vois, je pense aussi quand même qu'il y a aussi la crédibilité du camp d'en face. Alors certes, les Français sont contre les 64 ans, mais je ne suis pas convaincu que les Français trouvent très réaliste la proposition de revenir à 60 ans de la NUPES et des Insoumis.
Oh, ils ne diraient pas non.
Mais ça joue aussi.
En fait,
une élection présidentielle, c'est que t'as 10 candidats et tu choisis parmi les 10 candidats. Et donc Macron, il a aussi gagné parce que les autres étaient encore moins convaincants. Aussi bien à gauche avec Hidalgo, à droite avec Pécresse.
Oui,
et donc
Mélenchon,
il y a eu d'ailleurs
Mélenchon.
Un vote utile à droite pour Macron dès le premier tour. Et en quelque sorte, un vote utile aussi soit Mélenchon, soit Macron à gauche.
Olivier, je suis d'accord avec
toi.
Mais quand même, là, il a utilisé toutes les ficelles. C'est-à-dire il a refusé le débat. Il a refusé plusieurs débats.
Il a refusé tous sur RMC.
Voilà, il a refusé tous les débats.
Il a refusé.
Serge, il n'avait pas de programme. Donc
lorsque vous parlez de refuser le débat, quand c'est pour entendre des absurdités comme Madame Rousseau, je vais dire il y a des débats.
Comme qui
Madame Rousseau. Il y a des choses que je n'ai pas envie de débattre avec ces gens-là parce qu'ils sont contre.
Ah bah oui, mais pardon.
Vous voulez accéder à la fonction suprême, c'est la moindre des choses d'accepter le débat.
Il faut débattre avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, sinon c'est pas un débat.
Oui, mais il a été élu. Parce que le débat,
oui,
c'est une chose. Mais ce qui compte, c'est le débat, effectivement, il est indispensable en démocratie.
Mais ça, c'est vous avez voté Macron ?
Moi, j'ai voté Macron.
Est-ce que vous avez voté Macron pour la réforme des retraites ?
Moi, j'ai voté Macron parce que, pour moi, on a une chance énorme d'avoir ce président de la République avec tous les emmerdements qu'on a depuis 7, 8, 5, 6 ans. Et si on n'avait pas
certains,
ce président,
c'est peut-être lui qui les a créés, parce que les Gilets jaunes, c'est lui qui les a mis dans la rue.
Mais bien sûr, il a essayé de réformer la France. Alors comment voulez-vous, effectivement? Et moi, je vais vous dire, ça va profiter à quelqu'un. Et je pense qu'il le souhaite, surtout les syndicalistes et l'extrême gauche. Ça va profiter à Madame Le Pen, parce que là aussi, je sais pas si vous avez remarqué, qu'actuellement, Madame Le Pen, elle le joue très fin, parce qu'elle s'oppose un petit peu. Et en gros, qu'est-ce qu'elle va dire, elle? Parce que la loi va passer de toute façon. Cette réforme va être faite. Et elle va dire, attendez, vous inquiétez pas. Si vous votez pour moi, on revient à 60. Et à part faire élire Madame Le Pen la prochaine fois, tout ce qui se fait là est contre-productif. Moi, j'ai une fille qui élève 2 gosses, qui a économisé pour partir 8 jours à la neige. Elle va peut-être pas pouvoir y aller. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais Arnaud, il s'en fout de ça, le milliardaire. Mais est-ce que vous vous rendez compte qui on emmerde? Tous les jours, il y a des gens qui ont du mal à s'acheter à bouffer. Il y a des commerçants qui n'arrivent plus à vivre à cause des problèmes. Et on va encore pénaliser. Les restaurateurs, ça fait 3 ans que ces mecs-là, ils ont du mal à bosser. Le Covid, la guerre, le machin. Est-ce que vous vous rendez compte? dans la merde où ces gens-là vont mettre le pays.
Alors,
et il a raison, Darmanin. Il a raison, Darmanin. C'est bordéliser le pays.
Non, ouais, non, Serge,
un peu tout là.
Serge, ouais. La discussion va continuer. Non, mais Serge,
il a raison de poser des questions.
Il a raison.
Il l'exprime dans les jugés dans les grandes gueules. Serge, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée du côté de l'île de Ré, Serge. À bientôt.
À bientôt.
Vous êtes dans une nouvelle discussion avec Franck dans un instant du côté des Alpes-Maritimes, informaticien. Alors, Serge, le retraité, dit non au bordel, non au blocage. Franck, informaticien dans les Alpes-Maritimes, dit au contraire, faut y aller. Donc, deux points de vue qui s'expriment dans les GG. À tout de suite.
Et ça s'appelle le débat.
RMC. 9h30. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, avant de continuer notre discussion à propos de la réforme des retraites et du scénario du blocage qui est discuté par les syndicats mais qui ne fait pas l'unanimité. On va en parler avec Franck qui est du côté des Alpes-Maritimes. Je vous rappelle, vous avez des vacances à gagner. En m'envoyant vacances par SMS au 732-16, vous partez dans l'un des 50 clubs Bellambra, partout en France. Donc, vous avez le choix, vous partez en famille ou entre amis, 4 personnes, mer, montagne, campagne, vous choisissez, il y a les animations pour les enfants, la détente pour les parents. Gagnez vos prochaines vacances grâce au GG, grâce aux Grandes Gueules et surtout au club Bellambra. Envoyez vacances par SMS au 732-16, le gagnant, la gagnante, tout à l'heure à 11h20. À vous de jouer, à vous de gagner. On passe par les Alpes-Maritimes, du côté de Saint-Laurent-du-Var, retrouver Franck, informaticien. Bonjour Franck.
Bonjour.
Bonjour monsieur Franck. Alors, le scénario du blocage.
Vous... Pardon, 9h28, Pomard n'est toujours pas là.
Bah, j'ai gagné ça, mais... déjà.
Pardon. Alors, qu'est-ce que vous en dites Franck?
Ben, moi, je pense, pour une fois, je pense beaucoup comme Thomas Porcher, qui, effectivement, dit que le seul moyen pour faire plier le gouvernement à un moment donné, c'est de taper au portefeuille, c'est-à-dire au niveau économique. Et le seul moyen de faire ça, eh ben, malheureusement, c'est de bloquer, de réduire les rentrées de TVA, etc., et donc de bloquer un peu l'économie du pays, quoi. Voilà.
Oui, mais le problème, Franck, c'est que ça pénalise aussi les grévistes, ça pénalise tout le monde. Hein.
Non, mais je suis bien d'accord.
L'économie du pays, c'est les Français, c'est vous, c'est nous, moi.
Mais je suis bien d'accord, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où, quand on manifeste, on fait des manifestations, etc., le gouvernement reste droit dans ses bottes, ne veut pas bouger, ne veut pas écouter, ne veut pas entendre, alors qu'il y a une majorité de gens qui ne veulent pas de cette loi, à un moment donné, il n'y a pas d'autre solution. Si vous me trouvez une meilleure solution, vous me le dites. Mais moi, j'en vois pas.
Mais je m'interroge sur la volonté des grévistes d'aller dans cette idée de durcir. Alors peut-être à la CGT cheminot, peut-être dans les raffineries, mais j'entends d'autres syndicats, la CFDT, l'UNSA, etc. Ils sont pas tellement dans l'idée d'une grève reconductible. Je pense que ça peut aussi fissurer le front syndical. Mais quand même, le front syndical, c'est ce qui est assez fort dans ce mouvement.
Mais Franck, est-ce que vous pourriez participer, vous?
Est-ce que vous avez manifesté?
Parce que dire aux autres dans la fonction publique, aux gars des transports et autres, allez-y les gars, bloquez tout. Mais enfin, c'est eux qui font grève, c'est eux qui perdent de l'argent. Est-ce que vous seriez prêt à vous y engager?
Oui, je suis prêt. Mais comme j'ai expliqué, là, j'ai des soucis de santé, donc j'ai pas pu aller dans les manifestations. Mais bien sûr que dès que je serai en possibilité de le faire, je vais y aller, bien sûr.
Quitte à vous mettre en grève dans votre boîte aussi.
Ah bah de toute façon c'est simple, moi maintenant je fais plus partie d'aucune boîte.
Ah bon?
Ah vous êtes à votre compte?
Ah d'accord.
Non,
vous êtes...
je me suis reconverti. Vous je suis quoi? Chercheur.
Ah
d'accord.
Ok.
D'accord.
Donc chercheur d'emploi. Hein.
Ah,
j'espère que vous trouverez, parce que c'est surtout ça. Enfin, mais s'il y a une grève générale, ça risque d'être plus compliqué aussi.
Vous cherchez dans quoi?
De toute façon, c'est mal barré. Ça fait 3 ans que. Enfin, j'ai fait 3 ans de chômage.
Quel âge avez-vous?
J'ai 55 ans, un informaticien qui a plus de 50 ans, c'est fini, c'est mort pour lui, je vous dis pas combien j'ai envoyé de CV de partout, quand j'ai la chance d'avoir des réponses, voilà quoi. Donc à un moment donné, comment je fais de 53 ans au chômage, je reste jusqu'à 64 ans au chômage?
Bien sûr, oui, bien sûr.
Voilà. Donc,
les boîtes ont besoin.
Franck a raison quand même.
Les boîtes, elles ont besoin des informaticiens actuels, c'est-à-dire des informaticiens qui connaissent les nouvelles technologies. Et pas
donc
des,
en fait,
pas
il
des
vous faut une formation.
Mais tout à fait, mais une formation pour laquelle qu'il me faudrait, ça vaut entre 40 et 60 000 euros quand même. Voilà.
Oui. Ah oui.
Eh oui, bah attendez, quand vous travaillez dans des gros groupes, quand vous travaillez dans le nucléaire, enfin dans des choses assez stratégiques.
Ah oui, mais là c'est très technique.
Ou voilà, très technique, ou alors ou dans des banques, dans des assurances où il y a beaucoup de flux financiers. Et si vous faites des bêtises, ben vous risquez de mettre à mal quand même.
Mais Franck, vous êtes typiquement au cœur aussi des sujets de friction sur la réforme des retraites. C'est l'emploi des seniors, leur formation et comment on fait
qu'ils
puissent travailler jusqu'à 64, 65
et
ans.
Et là, Franck, il est typiquement dans le sas où la première discrimination.
C'est l'âge.
Les seniors. C'est l'âge. Et là, c'est un vrai problème. Et une boîte préfère investir dans la formation d'un jeune, déjà parce qu'il va coûter moins cher à l'embauche, et puis déjà en
termes de salaire, il coûte moins cher aussi.
Voilà, elle investit. Et donc, c'est le jeune plutôt que Franck. Mais là où je rejoins Franck, là où il a raison sur quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a eu trois manifestations, deux des syndicats qui ont augmenté. Il y a des sondages qui montrent que tous les Français sont contre. Que fait le gouvernement? Il bouge pas, en fait. Il dit rien.
Il va accorder des trimestres supplémentaires aux femmes qui ont des enfants. Il va accorder des choses pour les carrières longues. Tu vas voir, bien sûr.
Déjà acté. Moi, je les trouve complètement
et une clause de revoyure à la fin du quinquennat, ce qui fait que ça va être 63 ans, en fait. Et en 2027, on verra si on va jusqu'à 64 ans.
Il va y avoir des concessions. Pour toi, je laisse à chaque fois un petit peu.
Là, il va y avoir des concessions. Ça va coûter plusieurs milliards d'euros. D'ailleurs, c'est leur problème, parce que comme c'est une réforme qui est censée faire des économies, ils vont lâcher des milliards. Donc, on va se retrouver, moi je pense, le pari, c'est qu'on va se retrouver avec une réforme à minima, qui va quand même bloquer le pays, etc., énerver tout le monde. Personne ne sera satisfait en fin de compte. Et il faudra faire une nouvelle réforme dans 5 ans, parce que le système par répartition, on va un peu droit dans le mur, puisque je ne sais plus qui disait, c'est un système de Ponzi.
Mais c'est un peu ça.
Il y a de moins en moins d'actifs.
Ah bon?
Tu prends d'un côté, c'est pas toi que je vais apprendre ce que c'est. Même le corps,
vous regardez les courbes, il y a la moitié qui se redresse naturellement. Non, mais vous avez vu ce qu'elle
dit. Mais il y a un problème démographique, Thomas.
Le choc démographique est derrière nous, Sarah. C'est ça. Je veux dire, le nombre de retraités a augmenté de 100%.
D'accord, mais le système par répartition, tu dois compter sur la jeunesse aussi.
Et très bien.
Et on fait moins d'enfants.
Le nombre de retraités par rapport aux actifs a augmenté de 100%. Il a doublé ces 30 dernières années. Là, ce qu'il y a devant nous, c'est une augmentation de 20%. Donc, faut arrêter. C'est-à-dire que le choc.
Moi, je pense que ce que tu es en train de défendre, c'est des pensions plus faibles.
Mais non.
Parce que on fait travailler les gens. Je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Tu me réponds. On nous fait travailler de plus en plus tard.
Ouais, tout à fait.
On sait que les carrières sont de plus en plus hachées. Maintenant, c'est quasiment impossible de faire carrière dans la même boîte, etc. On change de vie. Il faut être souple, etc. Donc, on va arriver à un moment. Tu prends ta retraite, mais tu prends pas ta retraite à taux plein. Donc, t'as des pensions plus basses. Et c'est ça ce que tu nous vends, en fait.
D'accord. Attends,
avec le système par répartition.
Là, je suis entièrement d'accord avec Olivier. Ce qu'il dit est vrai. C'est-à-dire que
les
carrières vont être de plus en plus hachées. Ce qui veut dire que les gens vont avoir moins de pensions. Ma génération va avoir moins de pensions.
Et en plus, tu commences de plus en plus tard à rentrer dans le marché du travail.
Ouais, ce qui est mon cas, par exemple. Toi, t'es carrière hachée. Mais attends, laisse-moi finir mon raisonnement. Le problème, c'est que la réforme que propose Macron, c'est encore pire. Parce que si tu reportes de 2 ans l'âge de départ à la retraite, les pensions vont être encore plus faibles parce que le dénominateur va être plus élevé. Donc, en fait, effectivement, moi, ma génération, parce qu'elle a fait beaucoup d'études, parce qu'elle a des carrières hachées, va avoir des pensions plus faibles.
Ah, voilà.
Mais ce que va faire le gouvernement.
Donc, quand on dit,
je finis. Ce que va faire le gouvernement, c'est que ça va être encore plus faible. Donc, je vois pas en quoi ça résout le problème. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième des choses.
La deuxième chose
qui est importante, c'est pas qu'une question démographique. Qu'est-ce qui finance les retraites? C'est le niveau de salaire, c'est les cotisations. Si t'as des meilleurs salaires, plus de rentrées.
Oui,
Alors,
ça, c'est très aléatoire.
Bien sûr.
Ça dépend de l'état de l'économie.
Ça se décrète pas.
Non, mais il y a que les insoumis qui pensent qu'on peut décréter des augmentations de salaire.
Mais en fait, Olivier a raison, tu défends les petites pensions.
Ça dépend dans les boîtes. Pardon, les patrons de PME, parce que c'est essentiellement des PME en France, ils aimeraient bien augmenter, mais ils n'augmentent pas parce qu'ils ont des charges.
50% des salariés ne sont pas dans des PME.
Moi, je préférerais le système par capitalisation.
Attention, ce n'est pas les insoumis qui décrètent l'augmentation de salaire. C'est Bruno Le Maire qui demande au patron d'augmenter les salaires.
Merci à Franck d'avoir été avec nous. Fouad, du côté des Hauts-de-Seine, qui est consultant en cybercriminalité. Bonjour.
Bonjour.
Et vous, Fouad, quelle est votre opinion alors?
Moi, pour l'instant, donc depuis, j'ai 61 ans, et dans toute ma carrière, j'ai jamais fait grève, j'ai jamais manifesté, et la première fois, c'était mardi dernier.
Ah bon?
Ah voilà.
Voilà, parce que je trouve cette réforme de retraite injuste, pénalisante, et en plus, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement peut décider deux choses à la fois, nombre d'annuités et date de départ de la retraite. L'intelligence voudrait qu'il décide sur, par exemple, le nombre d'annuités. Et il peut également, comme l'ont suggéré, je pense, ces derniers jours, certains interlocuteurs qui vous ont appelé, c'est qu'on fait le nombre d'heures de travail par semaine dépend de l'âge. Au début de la carrière, on travaille beaucoup et donc on cotise beaucoup. Et plus on avance, plus on réduit le nombre d'heures. Et comme ça, on fait notre annuité et puis on part quand on veut.
Et Fouad, là, aujourd'hui, vous, à 62 ans,
oui.
Vous êtes à la retraite ou pas encore ?
Ah non, non, non. Moi, je suis un cas exceptionnel, mais je ne veux pas que les gens le prennent comme exemple. Moi, je suis quelqu'un qui a eu une multiple vie professionnelle. Oui. J'ai commencé un docteur en biochimie. Aujourd'hui, je suis dans la cybercriminalité, ayant passé par responsable européen dans le domaine IT pour un groupe américain. J'ai 62 ans. Je continue d'étudier, de me certifier, ainsi de suite. Donc moi, je suis actif parce que je veux être le modèle pour mes enfants. Mais c'est moi.
J'aime beaucoup votre mentalité.
Voilà, et puis même, je vous dis, comme j'ai deux maladies chroniques, récemment j'ai fait un infarctus et je suis habitant thérapeutique, bon, je travaille, mais je continue, je voudrais bien que cette période de mi-temps thérapeutique s'arrête et que je continue à avancer, parce que je veux que mes enfants étudient, avancent pour mieux, en me voyant, moi, faire des efforts, et puis j'aime ça. Mais tout le monde n'a pas les mêmes...
Bien sûr, voilà. Bien sûr, les mêmes capacités ou les mêmes mentalités que vous, mon cher Fouad. Mais je vous souhaite de bien vous relancer,
une bonne année.
Merci d'avoir été avec nous, Fouad. On va conclure cette discussion.
Attention, je crois que...
Roulement de tambour.
Allez, Bruno, tu peux rentrer.
Enfin.
Bien. Alors, attends. Mets-toi devant le micro, raconte-nous mes aventures.
Qu'est-ce qui s'est passé, Bruno ?
Ah, le cul de Paris.
Quoi ?
Il y a eu un accident sur le périph', mais enfin,
ça peut arriver.
Tu me diras, il y a plein de Parisiens qui ont vécu ce que j'ai vécu aujourd'hui.
On dirait qu'ils sortent.
J'ai voulu, non, mais attends, je me suis foutu dedans tout seul, je vous avoue. J'ai voulu bifurquer à Porte de Gentilly.
Oui. Ah, c'est ce que j'avais fait la dernière fois.
Et j'ai voulu reprendre le périph', mais que le faux, je suis parti sur le A6.
Ah, bon,
ah
voilà.
Oui, d'accord.
Mais on l'a dit,
je suis vraiment abruti.
Il s'était trompé, il est parti sur Orléans.
Ah, je suis vraiment abruti.
Non, mais c'est l'enfer, franchement, c'est l'enfer.
L'accident, explique.
T'as pas le gyrophare, toi, dans ta voiture ?
Avant, oui, c'était pratique quand j'étais au raid, ouais. Quand ça bouchait comme ça, mais c'est l'EDF ne paie pas l'électricité. Quand t'es dans la police, tu fais
un
gyro.
Soufflé parce qu'en fait, t'as fini à pied ou quoi ?
Mais non, mais j'ai horreur d'être en retard. Regardez, habituellement, je vais voir un peu si vous travaillez.
Oui, c'est
vrai. Vous travaillez de très bonne heure. Mesdames et messieurs, vous qui écoutez, qui entendez, il faut savoir que ces gens-là, la prod, Alain et Olivier, ne viennent pas juste là sur le plateau faire 3 heures d'émission. Ils sont là 6h30, 7h tous les matins.
Donc, il y a BFM. Mais les élèves qui passent de la pommade au prof.
Non, c'est pas pour eux. C'est pas pour me racheter.
Il est en train
mais c'est
passer de la pommade au chef.
Non, mais je te jure, très sincèrement. Ils font vachement d'heures parce qu'on a l'impression qu'ils font juste animer.
Non. Moi, je suis arrivé une fois en retard.
Alors, les 2 heures de
pommade.
Les 2 heures de colle sont levées.
Ouais, allez, c'est bon.
Je suis navré, vraiment navré.
Récupère ton souffle, ça peut arriver. On va regarder la consultation. Bloquer le pays pour faire plier le chef de l'État.
Tu dois travailler, moi, je suis pas avocat.
On va regarder. C'est un oui à 68%. On est presque dans l'étiage du sondage.
Bruno Pomard, il arrive à 11h. Hein,
du sondage.
Et je vais vous dire un truc. Prends les casquettes d'entendre les trucs des retraites.
Quoi ?
C'est
pour ça que t'es arrivé en retard pour
parler. Il avait pas envie d'en parler, en fait.
Allez, dans un instant, on s'en fout pas avec notre productrice Anaïs Sens, la France s'impatiente. Elle arrive.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules, c'est tous les jours en direct, c'est avec vous, 32-16, vous réagissez, vous débattez. Tout à l'heure à 10h, venez discuter avec nous de cette expérimentation en Picardie, travailler 4 jours par semaine, est-ce que c'est la semaine de travail idéale, 4 jours, 9 heures par jour, c'est ce que vont tenter les agents d'URSSAF en Picardie, dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. Avec le professeur d'économie Thomas Porcher, l'avocat de Sarah Salman et l'ancien policier du raid Bruno Pomard. C'est l'heure du « on s'en fout, on s'en fout pas ».
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Avec notre productrice Anaïs Sainz. Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Tiens, j'ai un petit bonjour à passer à Julien. Voilà.
Ah, dis donc.
C'est qui ce Julien ?
C'est qui ? Bah, non, ça vous regarde pas, dis donc.
On n'a pas le droit de savoir,
on peut voir sa photo.
Alors, à force de... Hein, pardon ?
On peut voir sa photo ?
Bah non, peut-être pas. Mais non, à force de parler des réseaux sociaux, ça...
Vas-y, d'accord.
Va plus loin, va plus loin.
Je rigole. Mais en même temps, je tends le bâton pour me faire...
La féerie de Julien.
Je tends la baguette. Bon, vas-y. Bref. Les GG, on a trouvé le sauveur de la gauche. Une idée, les GG, ou pas? Le sauveur de la gauche.
Bernard Cazeneuve.
Oh, Cazeneuve. Oh, mais... Tu vois, Thomas serait séduit.
Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, lance un mouvement pour fédérer les membres de la gauche hostile à la NUPES. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Thomas?
On s'en fout pas.
Bruno?
On s'en fout pas, c'est très intéressant. Quand
Sarah
même.
On s'en fout.
Oui. Thomas?
Non, on s'en fout de droite, pas. S'en fout, moi, en fait, je m'en fous un peu, mais pourquoi je m'en fous pas? Parce que c'est assez marrant. C'est que quand il était au gouvernement, il y avait des frondeurs. Maintenant, c'est un peu lui le frondeur, puisque finalement, la gauche majoritaire, elle est plutôt du côté de la NUPES, hein, celle qui a fait le meilleur score. Et lui, il se retrouve du côté des frondeurs, ça qui est assez marrant.
C'est vrai, c'est bien vu.
Oui, mais en même temps, Bernard Cazeneuve est un homme d'État. Moi, je trouve que c'est.
Il a été ministre de l'Intérieur, ça a été ton ministre.
Ministre,
ça a été
premier ministre. Et puis pas commode en plus, hein, je peux vous assurer, il était pas commode. Oui, avocat, oui, tout à fait, il a un cabinet d'avocat. Mais je trouve que c'est intéressant ce qu'il fait là, parce qu'au moins, il veut essayer de garder cette ligne de la gauche. Et je pense qu'il y aura Carole Delga. Il y aura sûrement même le maire de Rouen qui va se ravigaucher avec lui.
Enfin, c'est la gauche que t'aimes.
Ouais,
la gauche caviar.
Non, c'est
un autre Macron. Est
pas les traîtres comme Faure, parce que Faure, qu'est-ce qu'il a fait pour sauver son poste? Il a rejoint LFI. Donc je trouve que c'est pas mal ce qu'il fait, mais ça va foutre encore un peu plus le bordel à gauche.
Les GG, la Caisse des dépôts sauve Orpea. C'est pour toi, Sarah. Le groupe d'EHPAD privé passe sous le contrôle du bras de fer, du bras financier de l'État. Est-ce qu'on s'en fout ou pas?
On s'en fout pas.
Bruno?
Non, on s'en fout pas, c'est vrai.
Thomas?
Oui, on s'en fout pas, même si je connais pas trop, j'ai pas suivi l'affaire.
Sarah?
Ah mais enfin juste la phrase, la Caisse des dépôts en sauveur d'Orpea, moi ça me fait bondir. En quoi sauver Orpea?
Alors déjà bon, si la Caisse des dépôts prend le contrôle, les exigences de rentabilité vont diminuer forcément.
D'accord, mais là j'aimerais quand même revenir sur la base. Ils ont reçu beaucoup d'argent des familles. En moyenne chez Orpea c'est entre 4 000 et 5 000 euros. Ça peut monter à 12 000 euros au bord de Seine. Ils reçoivent des subventions publiques. Donc avoir besoin d'un sauveur, ça me paraît, pour moi c'est inaudible pour les familles. J'ai vu d'ailleurs qu'ils avaient beaucoup chuté en bourse. Ça me réjouit, mais là, pour moi, c'est pas la solution. Enfin, intervient en sauver Orpea.
Alors en fait, Orpea a 9,5 milliards de passifs, de dettes. Ouais. La Caisse des dépôts et consignations, aujourd'hui, l'action vaut 5 euros alors qu'elle était à 90 euros d'Orpea. Ils rachètent, ils vont épurer, parce que la crainte, si tu veux, c'est qu'en fait le groupe aujourd'hui soit vendu à la découpe et qu'on se fiche complètement de ce qui arrive aux pensionnaires.
Il faut expliquer c'est quoi la Caisse de dépôt, parce que je pense que
c'est la banque de l'État.
C'est la banque de l'État. Et donc certains disent
mais ça veut dire
une bonne chose. Orpea va sortir d'une logique uniquement financière et boursière.
Je le dis vraiment, j'y crois partiellement.
Tu ne crois pas, toi?
J'ai plus aucune confiance en Orpea, j'y crois plus du tout.
Non, mais là, ils vont être quand même, comme tu dis,
ils vont être contrôlés. Eh oui, non. Ça va être moins pire. Non,
mais c'est quand même important. On a vu ce qui s'est passé.
Mais l'ARS a aussi un rôle à jouer, tu vois.
Mais sur l'aspect.
Pardon, mais même quand c'est privé, il y a des contrôles qui sont effectués et qui ne le sont pas.
Non, mais c'est pire que ça. L'ARS doit faire des contrôles. Il y a un contrôle en moyenne tous les 7 ans et ils préviennent quand ils viennent. Est-ce qu'on peut appeler ça un contrôle? Donc c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est une fausse bonne idée. Sur le papier, ça paraît bien.
Il faut plus de contrôle.
Des contrôles inopinés.
Oui, bien sûr.
Déjà, c'est moins pire que ce qui est arrivé quand même.
Et puis si l'État prend le contrôle, mais que c'est un État pantouflard comme il fait à chaque fois, rien ne se passe. Là, faudrait peut-être même que l'État prenne vraiment le contrôle.
Pour moi, c'est soit tu le prends complètement, soit tu le prends pas.
L'État se dise voilà.
Pardon, mais l'État gère nos hôpitaux publics. Je suis désolé, j'ai autant peur d'Orpea que d'un hôpital public aujourd'hui.
Oui, mais attends, alors Olivier, juste si je peux me permettre, Orpea quand il y allait avant, maintenant ça a un peu changé. Tu mettais une somme d'argent conséquente et tu y allais en toute confiance en disant
qu'en ayant payé tu serais bien.
Quand tu vois, moi j'en ai visité en off, c'est vraiment, ça donne confiance, envie. Ils te disent voilà, votre parent sera traité comme un prince et c'est normal, tu payes beaucoup. Dans le public, on t'a pas vendu du rêve. Non. On t'a dit on n'a pas beaucoup de moyens, on va faire ce qu'on peut.
Enfin, dans le public, on nous vend quand même qu'on sera bien soigné et on apprend chaque jour qu'on laisse les gens sur les brancards mourir. Donc
d'accord, mais dans le public, est-ce que tu as une image idyllique? Non, chez Orpea, on pouvait se dire
ils nous ont rendu un faux rêve.
Ça fait longtemps que l'image du public n'est plus idyllique.
Les sénateurs qui refusent de modifier leur régime de retraite, car les sénateurs bénéficient bien d'un régime spécial qui ne sera pas impacté par la réforme. Retraite toujours donc à 62 ans.
Combien?
Au palais du Luxembourg. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Bruno?
Non, on s'en fout pas, parce qu'encore une fois...
Attends, on s'en fout pas.
Thomas? On s'en fout pas.
Bruno?
Non, on s'en fout pas. Moi, je le vois, tiens, en tant qu'élu, mais c'est une petite parenthèse, moi, en tant qu'élu du rural, je touche normalement, grosso modo, 1200 euros. Je reverse quasiment l'intégralité à ma petite commune. alors que je pourrais le garder. Hein. J'ai une retraite de 1300 euros, donc à la limite, 1200 euros, c'est pas rien pour moi. Et quand je vois ces sénateurs, comme ces députés, et les députés, ça s'est arrangé, hein, puisque ça a légiféré sur ce sujet-là, mais les sénateurs, quand même, pourraient faire un effort compte tenu de ce qu'on demande aux Français. Ouais. Ils touchent grosso modo 2200 euros de retraite au bout d'un mandat.
C'est ce que je cherche. Ce
au bout d'un mandat.
Ouais, ouais, 2200.
C'est, et en général, ils en
au
font
bout de 6 ans, moi, c'est ce que je touche au bout de 36 ans de flic.
Et les députés n'ont pas du tout ça.
Voilà, alors, on nous explique qu'ils ont une cagnotte à eux. Ils ont oublié quand même que c'est nos impôts qui financent.
Dans les 2000 euros.
En fait, ils ont un régime autonome.
Oui, mais le régime autonome, il est payé avec nos impôts.
Il est payé par nous, je suis d'accord.
Arrêtez de déconner.
Non mais là, Olivier, tu critiques beaucoup le public. Là, mais là, on a une belle maison de retraite publique.
Bah,
là.
Je suis d'accord.
Réforme
le Sénat.
C'est la maison de retraite publique.
Ils ont une réserve de
quasiment
2 milliards.
Hein, parce que là,
et une réserve de 2 milliards. Hein. Non, parce c'est ça, 1,8 million.
Ce qui est amusant, c'est que les plus fervents défenseurs de la réforme de Macron sont au Sénat. C'est Gérard Larcher, Bruno Retailleau. Donc c'est vrai qu'on leur demande peut-être de se réformer.
Et puis l'Assemblée nationale avait fait un effort.
Il y a que qui peuvent se faire, il faut rappeler.
Oui, il n'y a que les questeurs.
Non, au nom de la séparation des pouvoirs, le gouvernement ne peut pas imposer une réforme.
Ça doit venir d'eux-mêmes.
C'est aux sénateurs de se réformer eux-mêmes.
Du bon sens.
Oui.
De l'autorégulation comme on aime.
Faites ce que je dis, faites pas ce que je dis.
C'est pratique de pouvoir se réformer soi-même.
Ben, oui, c'est clair.
Manque de neige, manque de saisonniers, certaines mauvaises langues ne voyaient pas les stations de ski passer l'hiver. Eh bien, c'est tout l'inverse. Les stations de sport d'hiver enregistrent une fréquentation record, meilleur mois de janvier de tous les temps. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Thomas?
On s'en fout pas.
Sarah, on ne s'en fout pas.
Ouais, c'est chez moi, en plus, ça va faire accès les termes entre autres et d'autres stations, mais on s'en fout pas, évidemment.
Alors, Bruno,
mais tout simplement, c'est de l'économie pour nos régions. Moi, je le vois parce que j'habite dans une région dans les Pyrénées, pas loin des Pyrénées.
Et que c'est 64 le numéro
64, tu vois, 66 pour Font-Romeu, 65, enfin, c'est toute la chaîne des Pyrénées. Et je crois que c'est important pour tous ceux qui travaillent dans ce domaine parce que ça rapporte quand même beaucoup d'argent. C'est du tourisme, c'est de l'économie, tout simplement.
Thomas ?
Après tout ce qu'on a vécu avec le Covid, etc., où on ne pouvait plus rien faire, le fait que les gens repartent en vacances, qu'ils soient heureux, etc., alors qu'en plus, ceux qui partent, là, moi je vois, j'ai déjà réservé mes vacances d'été. C'est-à-dire que tout le monde maintenant réserve, c'est tellement cher, anticipe au très long terme et attendent leurs vacances avec impatience comme ça. Donc,
t'as déjà réservé tes vacances d'été?
Tu vas être obligé, sinon c'est de plus en plus cher.
C'est Maurice. Donc, j'ai réservé là vraiment pour
les vacances. Il va à Monaco.
Avant, je faisais jamais ça. Avant, je réservais toujours deux semaines avant. Je payais les prix. C'était horrible. J'avais les chambres les plus pourries. Enfin, et là, comme j'amène mon fils, maintenant, je réserve longtemps là. Et donc là, je parle. Je dis, on va faire comme l'année dernière. Il est content. Donc,
papa, voilà, on va faire une chambre pourrie.
Mais voilà, tu vas où? Tu vas où? À Saint-Maurice?
Je vais, je vais.
À Dubaï?
Non. Je vais.
À Monaco, peut-être.
Un petit peu en dessous de La Rochelle, à Surgères.
Il y a des stations de ski là-bas?
Non.
Il parle de l'été.
L'été.
Bruno, il est encore dans les embouchures.
Une heure de retard.
Tu t'es réveillé à 7h, Bruno, là?
Ben oui,
t'es sûr que t'étais dans les embouchures?
Je me suis énervé surtout.
On dirait qu'il y a une panne d'oreiller.
Puisqu'on parle des stations de ski, on parle des vacances de Thomas Porcher aussi. N'oubliez pas que vous gagnez vos vacances en envoyant vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. Vous partez dans l'un des 50 clubs Bellambra, à la mer, à la montagne, à la campagne, en famille,
en famille
ou entre amis.
Super, ça,
et vous avez en plus ces animations pour les enfants.
Ouais.
Donc Bellambra vous offre vos vacances. Envoyez vacances par SMS au 732-16. Vous jouez, vous gagnez. C'est simple comme un tirage au sort. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, travailler 4 jours par semaine, c'est Gabriel Attal, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui teste pour les agents de l'URSSAF en Picardie la semaine de 36 heures en 4 jours. Alors, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est le rythme de travail idéal? Peut-être l'avez-vous déjà expérimenté. Venez en parler avec les GG, avec les grandes gueules, avec Sarah Salman, avec Bruno Pommard, avec Thomas Porcher. Et vous savez que ça se passe au 3-2-1-6. On dit aussi le
32-16.
Merci Anaïs, bonne journée. Allez, à tout de suite avec les grandes gueules sur RMC, RMC Story.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.